France Inter. Laetitia Gaillet. Le 6-9 de l'été.
On va essayer ce matin de ne pas vous endormir parce que précisément, on va parler sommeil. C'est un mot à la mode en ces périodes estivales puisque la seule chose qu'on vous dit quand vous partez en vacances, c'est repose-toi bien, récupère, dors bien. Bonjour Karim Benchenane.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS en neurosciences. Votre travail, c'est justement d'étudier le sommeil. Qu'est-ce que dit le sommeil de nous, Karim Benchenane ?
Alors, il dit beaucoup de choses et pas énormément en même temps parce qu'on est tous différents par rapport au sommeil. Et il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs. Et faut simplement savoir s'écouter et de pas taper dans ses réserves inutilement.
Qu'est-ce qu'on étudie quand on étudie justement le sommeil ?
On étudie plusieurs choses. On essaie de répondre à la question pourquoi on dort. C'est quelque chose d'extraordinairement compliqué parce que tous les animaux dorment, même les dauphins qui doivent remonter à la surface pour respirer, et pourtant ils dorment d'un hémisphère à la fois. Et si on n'arrive pas à répondre à la question pourquoi on dort, on essaie d'améliorer les effets bénéfiques du sommeil sur notre vie de tous les jours. Et donc on étudie le sommeil sur les capacités cognitives principalement, donc sur la récupération énergétique. Et il y a énormément de recherches également sur l'effet bénéfique du sommeil sur la mémoire.
Oui, parce que Karim Benchenane, vous travaillez sur la mémoire. Et quel est le lien pour vous, quel lien vous établissez entre le sommeil et la mémoire ?
En fait, on travaille, il y a énormément de recherches qui ont été faites sur le remède de grand-mère, il faut apprendre ses leçons avant de se coucher. Donc c'est des adages qui sont admis par Monsieur Tout-le-Monde. Et on commence à trouver des bases physiologiques à ces phénomènes. C'est-à-dire que si on enregistre l'activité des neurones lorsqu'on apprend des tâches, donc juste avant de se coucher, on voit que les neurones sont réactivés exactement de la même façon quand on dort juste après cet apprentissage. Et si on supprime ces réactivations, on est moins capable d'apprendre. Et ce qu'on avait montré il y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'on était capable d'utiliser le fait que le cerveau rejoue des apprentissages pendant le sommeil pour essayer de créer des nouveaux apprentissages.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on consolide des souvenirs ?
Oui, donc en gros, ce qu'on voit, c'est le fait d'apprendre pendant l'éveil, le cerveau va rejouer ces informations pendant le sommeil, comme la répétition a un effet bénéfique pour la mémoire. C'est-à-dire que plus on répète, mieux on apprend, et on s'aperçoit que le cerveau a développé des mécanismes qui permettaient de rejouer ces informations pendant le sommeil pour consolider la mémoire.
Alors, très schématiquement, la maladie d'Alzheimer, c'est aussi une perte beaucoup de mémoire. Est-ce qu'il y a un lien entre le sommeil et la maladie d'Alzheimer ? C'est-à-dire un manque de sommeil pourrait favoriser ?
Alors, le manque de sommeil ne serait pas une cause de la maladie d'Alzheimer, mais par contre, ça pourrait être un effet aggravant. On sait que lors du développement de la maladie d'Alzheimer, on s'aperçoit que les gens ont des problèmes de sommeil, des troubles de sommeil, et que ce manque de sommeil va pouvoir aggraver les effets néfastes sur les compétences mnésiques. Il y a une étude
les compétences
a été réalisée il y a... Oui, sur la mémoire, en fait.
Oui, d'accord.
Mais ça ne participerait pas à la mort des neurones que l'on observe dans la maladie d'Alzheimer, mais ça pourrait aggraver, en fait, les déficits de mémoire observés. Il y a une autre hypothèse qui a été soulevée, il y a une étude récemment qui a montré que pendant le sommeil, on pouvait un peu nettoyer le cerveau des déchets, et notamment du peptide bêta-amyloïde qui est à la base de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, le fait de, pendant dormir, de nettoyer le cerveau aurait un effet bénéfique pour contrer le développement de la maladie d'Alzheimer.
Karim Benchenane, la science du sommeil, c'est une science qui est finalement assez récente, non ?
Pas vraiment. C'est-à-dire que dès les premières études scientifiques pour montrer les effets bénéfiques du sommeil dans la mémoire, c'est le début du siècle dernier. Donc c'est relativement ancien. On a des observations qui suggèrent que le sommeil est bénéfique pour la mémoire. Ce qui est récent, c'est qu'on arrive à trouver des mécanismes neuronaux et on essaie d'expliquer comment des neurones qui communiquent entre eux peuvent expliquer l'effet bénéfique du sommeil dans la mémoire. Donc ce qui est nouveau, c'est vraiment qu'on comprend, on commence à comprendre finement les mécanismes mis en jeu.
Alors les psychanalystes interprètent les rêves. Qu'est-ce que le scientifique fait, lui, du rêve? En quoi il est important de l'étudier?
Alors, le rêve est extraordinairement difficile à étudier parce que la seule façon de l'étudier, c'est par les rapports de rêve. C'est-à-dire qu'on réveille les personnes et on leur demande est-ce qu'ils rêvaient ou de quoi ils rêvaient. Donc le ressenti subjectif, c'est quelque chose qui est très 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 difficile à étudier scientifiquement. Pendant très longtemps, on pensait que les rêves étaient restreints au sommeil paradoxal, qui est une phase très particulière du sommeil.
C'est la fin du sommeil, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que on dort par cycle de sommeil avec au début du sommeil lent, après du sommeil profond et du sommeil paradoxal. Et ça fait un cycle de sommeil et qui dure entre une heure et une heure et demie, ça dépend des gens. Et on fait plusieurs cycles par nuit. Et plus la nuit avance, plus le sommeil paradoxal est important. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression d'avoir plus de rêves sur le matin. Il y a une étude qui avait montré que si on apprenait à jouer à Tetris, plus on disait ce souvenir de Tetris dans nos rêves, meilleur était l'apprentissage de cette tâche. Après, il y a des gens qui rêvent et qui se rappellent des rêves et d'autres pas. Et donc, c'est très très difficile. Par exemple, si quelqu'un dit ne pas rêver, c'est assez dur de conclure est-ce qu'il ne rêve pas réellement ou est-ce qu'il ne se souvient pas de ses rêves. Et ça, il y avait une étude qui a été faite par Isabelle Arnufle à la Pitié-Salpêtrière où il y avait des sujets qui souffraient de troubles. De troubles où ils bougeaient pendant leur rêve. C'est-à-dire que pendant le sommeil paradoxal, normalement, il y a un système qui bloque toute l'activité musculaire pour ne pas qu'on fasse en réalité ce qu'on rêve.
Et oui, c'est-à-dire sauter d'un immeuble ou des choses comme ça, quoi.
Voilà, exactement. Eh ben, il y a ce qu'on appelle des troubles RGD, des troubles des mouvements pendant le sommeil paradoxal. Ces gens font ce qu'ils sont en train de rêver. Et donc, on voit des vidéos où les gens sont en train de parler ou de se battre avec des oiseaux, etc. Et au réveil, les gens rapportaient ne pas avoir rêvé. Donc, on pense que tout le monde rêve. Simplement, certaines personnes s'en souviennent plus que d'autres.
Oui, allez-y.
Non, la question de savoir à quoi sert le rêve, ça reste toujours quelque chose de compliqué à définir. On peut dire à quoi sert le sommeil paradoxal, le rêve c'est plus compliqué. Les dernières études tendent à essayer de décoder avec soit de l'IRM fonctionnel ou soit de l'électroencéphalographie, donc on mesure les oscillations du cerveau pendant le sommeil. On commence à réussir à décoder les rêves des gens. Donc on essaie d'utiliser de l'intelligence artificielle pour faire un lien entre ce que les gens disent rêver et l'activité de l'EEG ou de l'IRM. Et après, on inverse, c'est-à-dire qu'à partir de l'EEG, on demande aux gens « est-ce que vous avez bien rêvé de ça ?» et on commence à avoir des résultats.
Et à propos du cauchemar, alors j'ai lu que des chercheurs québécois pensaient qu'il a pour fonction de simuler des menaces et que finalement, ce serait une manière de mieux y faire face dans la journée. C'est possible ?
Alors oui, c'est une des hypothèses en cours, c'est-à-dire que ça permet de simuler des situations. On dit assez souvent que le sommeil paradoxal est lié à des contenus émotionnels relativement forts, et donc ça pourrait être une façon de se mettre dans des situations qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours et de tester nos mécanismes de défense. Mais ça, c'est plus des hypothèses qui sont consistante avec les données qu'on a, que quelque chose qui est réellement démontré.
Alors, une dernière question avant de passer à celle des auditeurs. Est-ce que, à travers l'étude du sommeil, dans le temps, est-ce que l'homme a changé vis-à-vis du sommeil ? Est-ce qu'il dort plus ou est-ce qu'il dort moins ?
Alors c'est une question qui est assez compliquée. Il y a par exemple la question de savoir est-ce que le sommeil chez l'homme est physiologiquement en un seul bloc, parce qu'il y a énormément d'animaux qui dorment un peu tout le temps dans la journée, ou plutôt le jour que la nuit, ou plutôt la nuit que le jour, Et l'homme est une espèce qui dort vraiment en un seul bloc. Il y avait des études qui avaient été faites et qui regardaient un peu dans la littérature. Et je crois qu'au Moyen-Âge, il y avait des moments où il y avait des cas de sommeil polyphasique où on se réveillait la nuit pour soit des rites païens ou d'autres choses. Et d'autres études qui avaient été montrées, que si on laissait des personnes dormir dans des... Il y avait une étude qui a été faite dans les années 60, donc dans des grottes où on n'avait pas du tout d'alternance jour-nuit, où les gens se mettaient à dormir un petit peu en deux étapes. Et l'apparition vraiment du sommeil monophasique tel qu'on le connaît serait... énormément augmenté avec l'apparition des sociétés industrielles et de la rythmicité dans le monde du travail.
Karim Benchenan, vous restez avec nous. Il y a tout de suite à venir les questions des auditeurs.
France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Et on va à Toulouse retrouver Suzanne. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Posez votre question.
Voilà, moi je vous appelle parce que ça fait des dizaines d'années que je ne dors pas. Et par période, je prends des somnifères qui m'apportent un confort, mais en même temps quelques effets secondaires, genre une hyperactivité. Et alors, je voulais savoir si c'était mieux de ne pas dormir, parce que dans mon cas, c'est vraiment catastrophique. Je peux dormir 2 heures, 3 heures, ou bien de prendre des somnifères. Voilà ma question.
Karine Benchenan.
Ouais. Donc il y a plusieurs choses. Je pense que donc déjà faudrait voir un des centres de sommeil qui sont spécialisés sur cette question, parce que je suis scientifique et pas médecin. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir, par exemple, quand on fait des études, il y a une différence entre le ressenti subjectif du sommeil, du manque de sommeil, et le sommeil objectif. C'est-à-dire que il y a des études qui ont été réalisées, notamment il y a une grosse étude qui a été réalisée au Brésil, où par exemple des gens qui disaient bien dormir, on obtenait dans 20% des cas, lorsqu'on enregistrait les signaux du cerveau, on s'apercevait qu'ils dormaient pas si bien que ça. Et inversement, des gens qui disaient ne pas dormir, en fait, on s'apercevait que le sommeil était normal dans de nombreux cas. Et ça, c'est important parce qu'il y a une différence entre le sommeil et la physiologie du sommeil pour le corps et le ressenti interne. C'est-à-dire qu'il y a certaines phases du sommeil où en fait on dort et on ne s'en rend pas compte. Et ça, c'est très important. On sait aussi qu'il y a des études qui ont été réalisées sur des effets placebo du sommeil. C'est-à-dire qu'on demandait à des gens de venir en laboratoire, on les séparait en deux groupes, et il y avait un groupe où on leur disait « vous avez très bien dormi ». Donc, ils avaient une quantité de sommeil paradoxal au-delà de la moyenne, donc de l'ordre de 30%. Et un autre groupe, on leur disait « Non, vous avez très mal dormi. » On leur disait que vous avez moins de sommeil paradoxal que la moyenne. Et lorsqu'on les testait sur des tâches comportementales, après, on s'apercevait que les personnes avec qui on avait dit « Vous avez bien dormi, réussissez mieux que la moyenne. » Et les personnes à qui on avait dit « Vous avez mal dormi, réussissez moins bien. » Alors que les deux groupes avaient dormi exactement de la même façon. Donc en fait, c'est un effet à la fois placebo, c'est-à-dire qu'il y a un effet bénéfique du sommeil si on vous dit « Vous avez bien dormi. » Et il y a un effet nocebo qui dit il y a un effet néfaste lorsqu'on vous dit que vous avez mal dormi. Et ça, c'est très important de faire attention au ressenti, parce que l'impression constante d'avoir l'impression de mal dormir va avoir les mêmes effets, des effets négatifs comme si on dormait mal. Après, il y a une autre chose, justement par rapport à ce ressenti positif ou négatif. Il y avait une étude donc en 2004 faite à l'université d'Harvard qui avait montré que des thérapies cognitives comportementales pouvaient être plus efficaces dans certains cas que des thérapies pharmacologiques, donc par exemple avec du zolpidem ou du stilnox, etc. Et en fait, les thérapies cognitives comportementales, c'est par exemple surtout ne pas rester dans son lit lorsqu'on ne dort pas. C'est-à-dire qu'il faut se lever, aller lire dans un bouquin. Donc il ne faut pas associer son lit au fait de ne pas dormir. Et il y avait également une autre partie, outre de la relaxation, il y avait aussi casser les fausses croyances. C'est-à-dire que, par exemple, on entend partout qu'il faut dormir entre 7 et 8 heures. Et donc, si on dort 6 heures, on va avoir l'impression de ne pas dormir assez. Or, les besoins de sommeil sont différents pour chaque personne.
Oui, on n'est pas égaux.
Il y a des personnes qui n'ont aucun problème. Exactement. Et donc, il y a une grosse phase qui est de casser les fausses croyances, parce que les fausses croyances vont avoir un effet néfaste sur le sommeil lui-même et nos compétences cognitives. Donc, les thérapies cognitives comportementales, donc qui peuvent être réalisées dans beaucoup d'endroits, sont considérées comme un traitement de première intention dans certains cas pour l'insomnie et ont dans certains cas des effets meilleurs que les traitements pharmacologiques.
Karine Benchenan, on va aller à Paris retrouver Chantal. Bonjour Chantal.
Oui, bonjour.
Karine Benchenan est à votre écoute.
Oui, bonjour, bonjour monsieur. Je m'aperçois, pardon, j'ai 70 ans et en discutant avec les copines de mon âge, on dort beaucoup moins en vieillissant. Et je voulais savoir si c'est un problème. Je pense comme ça intuitivement que c'est quelque chose de naturel, mais ça ne s'explique pas. Et effectivement, nous dormons là à partir d'un certain âge, j'ai l'impression tous, beaucoup moins. Pourquoi ?
Karine Benchenan ?
Alors, on ne sait pas pourquoi. On sait que, par exemple, avec l'âge, on va avoir une phase du sommeil qu'on appelle le sommeil lent profond, avec les oscillations lentes qui sont moins prononcées chez les personnes âgées. En règle générale, si on écoute les médecins, ils disent que les besoins de sommeil ne diminuent pas énormément avec l'âge. On va avoir, par contre, une différence de la perception du sommeil ou de la facilité à s'endormir. En tout état de cause, le manque du sommeil intervient à partir du moment où il y a une plainte. C'est-à-dire que si on dort moins et que l'on se sent parfaitement en bonne santé, il y a pas de quoi s'alarmer. La dette de sommeil se définit entre la différence entre le sommeil dont on a besoin et le sommeil dont on a qu'on a effectivement. Donc la question, scientifiquement, on ne sait pas exactement pourquoi, mais s'il n'y a pas de plainte, c'est pas très très important. Une des hypothèses qui existe à l'heure actuelle, c'est le lien avec la régulation de la température. En fait, on sait, notamment dans les fortes chaleurs cet été, que les très fortes températures vont perturber le sommeil. Et en fait, il s'avère que la régulation de la température de notre corps est un acteur très important pour le sommeil, même en conditions physiologiques, à température normale. Et on sait qu'on doit l'endormissement intervient à un moment où on diminue le plus notre température. Et il y a une modification importante de la régulation de la température chez les personnes âgées. Et donc c'est une des hypothèses qui pourrait expliquer la différence de faculté d'endormissement, notamment chez les personnes âgées.
Alors Karim Benchenan, avant de retrouver Agnès en Corrèze, une question des techniciens de France Inter, mais aussi beaucoup de gens qui, comme nous, travaillons de nuit. Le travail de nuit a des effets négatifs sur le sommeil ? Comment on peut adapter sommeil ?
Alors, il y a eu un très 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 fort lien entre le rythme circadien et le sommeil.
Rythme circadien ?
Donc c'est l'alternance jour-nuit, et donc il y a la lumière qui est importante, et il y a notre rythme et notre corps qui a son propre rythme d'alternance entre le jour et la nuit, qui est en grande partie contrôlé par la lumière, mais on a notre horloge biologique interne. Donc ce qui est sûr, c'est que de nombreuses études montrent que le travail posté ou on travaille en cycle inversé et pas très bon. ce qui a été par contre montré beaucoup beaucoup plus, c'est le fait de changer fréquemment ce rythme. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, si on inverse complètement mais qu'on est toujours dans la même phase, le corps va s'adapter. Par contre, le fait de changer énormément les périodes de sommeil, là par contre, ça va avoir des effets beaucoup plus néfastes.
Et comme...
c'est une des raisons pour laquelle on conseille, par exemple, de pas forcément dormir plus le week-end ou de changer nos habitudes de sommeil en semaine. Le mieux, c'est d'avoir toujours la même rythmicité parce que le corps s'habitue. Et c'est un peu ce qui explique aussi parfois le fait qu'on peut se réveiller parfois à 6 heures du matin et on est très 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 alerte et on va se rendormir et se réveiller à 7h30 et être assez déréglé. Donc il y a les cycles de sommeil qui se mettent en phase avec notre horloge biologique et l'ensemble de cette rythmicité fait que le corps s'adapte à ce rythme et optimise le fonctionnement physiologique.
On va retrouver Agnès en Corrèze. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Allez-y.
Merci d'avoir pris ma question. Moi je voulais vous poser une petite question. J'ai mon papa qui est atteint de la maladie de Parkinson. Et donc, il y a de nombreux troubles du sommeil, surtout dans la première heure de sommeil, où il y a des réveils fréquents avec des demandes un peu confuses. Après, 4 ou 5 fois par nuit aussi. Par contre, dans la journée, il y a beaucoup de périodes d'endormissement. Voilà. Et je voulais savoir si ça avait un impact après sur sa... Enfin, le fait qu'il dorme beaucoup pendant la journée, s'il y avait un impact sur la nuit, et aussi au niveau de la mémoire. Pour la maladie, voilà.
Karim Benchanan.
Oui, alors encore une fois, je suis scientifique et pas médecin, et donc faudrait vraiment aller consulter son médecin traitement.
La question, mais... en fait, autour de la maladie, est-ce que le sommeil est quelque chose qui, on en a parlé tout à l'heure avec la maladie d'Alzheimer, mais ce type de maladie, Parkinson, Alzheimer, ont un impact véritablement sur le sommeil? Une fois qu'on en est atteint,
oui.
C'est ça.
Oui, les deux. Ce Parkinson est assez particulier parce que, par exemple, on sait qu'il y a deux liens très forts avec le sommeil. On sait que les personnes qui souffrent du trouble moteur pendant le sommeil paradoxal, c'est-à-dire que les gens dont je parlais tout à l'heure, qui bougent, qui font réellement ce qu'ils sont en train de rêver, il y a à peu près 80% de ces personnes qui vont développer une maladie d'Alzheimer ou une maladie qui est assez proche, enfin sur des démences à corps de Lévy. Et l'autre chose qu'on sait dans la pathologie d'Alzheimer, c'est que par exemple, quand les gens bougent pendant le sommeil paradoxal, en fait, autant pendant l'éveil et pendant normalement, ils vont avoir des tremblements et des troubles d'initiation du mouvement, pendant les mouvements qu'ils font pendant le sommeil, on n'observe pas ces troubles. Donc la maladie de Parkinson semble plus reliée à la physiopathologie du sommeil que ce qu'on peut voir pour Alzheimer en particulier. Ce qui est important de savoir, c'est que, par exemple, si on dort mal la nuit et qu'on va dormir le jour, en fait, le jour, on conseille de faire des siestes, mais on conseille de faire des siestes qui durent moins de 20 minutes. Parce que si on dort plus longtemps l'après-midi, donc une sieste relativement courte va être bénéfique parce qu'on va essayer, on va remobiliser et se reposer. Par contre, si on dort trop longtemps la journée, on empiète sur le capital sommeil. C'est-à-dire qu'on doit dormir une certaine durée chaque nuit. Et en gros, si on dort 20 minutes, en fait, le corps ne se rend pas compte qu'on a dormi. Mais si on va au-delà de ces 20 minutes, on va empiéter sur le capital sommeil et donc on dormira moins la nuit suivante. Donc ça risque d'être un effet qui va augmenter.
Merci.
Le problème de sommeil.
Merci beaucoup, Karine Benchanan. On va malheureusement s'arrêter là et pourtant il y avait beaucoup de questions. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS en neurosciences à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle. Et merci aussi à nos confrères de France Bleu Gironde qui ont permis d'assurer ce duplex. Merci à vous.